Saint-Cyprien, c'est sûr. Messieurs les chanoines, messieurs les abbés, mes très chers frères, je me dois d'abord de remercier la divine providence qui a permis que je sois parmi vous ce matin pour ce dimanche où l'on fait mémoire de la maternité divine de Notre-Dame. En cette fête mariale, voyons ensemble quelque peu ce que l'on pourrait offrir à Marie, notre mère du ciel et de la terre. Saint François de Sales écrivait avec sa grâce coutumière, à l'occasion d'une grande fête mariale, à une supérieure de la Visitation et à ses religieuses qu'il avait fondées, « Je les salue, écrit-il, ces très chères filles en l'amour de la très sainte Vierge, sur le berceau de laquelle je les invite à jeter tous les matins des fleurs pendant cette sainte octave, à savoir des saints soucis de la bien-aimité, des pensées de la servir à jamais, surtout des lys et des roses de pureté et d'ardente charité, avec les violettes de la très sacrée et très désirable humilité et simplicité. Que ce soit également notre bonheur pour cette fête mariale. C'est, vous le savez, coutume en famille d'offrir une gerbe de fleurs à sa mère en pareilles circonstances. Quant à nous, chrétiens, et spécialement nous, prêtres et membres de l'Institut du Christ-Roi sous un prêtre, nous aimons particulièrement la Sainte Vierge. Et donc ce matin, entrelacera tous ses pétales, toutes ses couleurs, tous ses parfums pour fêter ensemble notre Mère du Ciel, à qui nous devons tant dans ces moments si difficiles pour le monde et pour l'Église. Brantôme me fait sur le souci cette remarque qui a valu leur nom au tournesol et à l'héliotrope. La fleur du souci est la fleur ayant plus d'affinité, dit-il, avec le soleil, qu'aucune qui soit, tant en similitude de ses rayons et feuilles de la dite fleur, qu'à raison de la compagnie qu'elle lui fait ordinairement, se tournant de toutes parts où il va, et souffrant aussi, ou clouant selon sa hauteur ou sa bassesse. N'est-il pas bien choisi pour symboliser le plus grand honneur que nous puissions rendre aux saints, et en particulier à la Reine des Saints, la Vierge Marie, l'imitation de leur exemple de vertu, le regard tourné perpétuellement vers eux pour reproduire leur sainteté. Il faut faire ses actions avec Marie. C'est-à-dire qu'il faut, dans ses actions, regarder Marie comme un modèle accompli de toute vertu et perfection que le Saint-Esprit a formé dans une pure créature pour l'imiter selon notre petite portée. Et nous allons le voir tout à l'heure en ajoutant à ce bouquet que nous voulons offrir ce matin à Marie, en ajoutant lys, rose et violette à nos soucis et à nos pensées. Dès son berceau, la Vierge, enfant, nous offre le plus bel exemple de la sainteté. Dès sa naissance, n'est-elle pas la montagne dont la base repose sur les plus hautes montagnes, Mons in vertice mensium, c'est-à-dire surpasse-t-elle tous les anges et tous les saints dans l'amour et dans toutes les autres vertus qui en sont comme l'épanouissement? Jamais le mot du poète ne fut aussi vrai. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Et surtout, jamais la parole de notre Seigneur n'a trouvé une aussi parfaite application. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez semblable à de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Or, toute petite, qui ravissait déjà le cœur de Dieu, notre âme se vous promettons de vous faire compagnie comme le souci au soleil. Nous nous appliquerons à faire nos actions avec vous, Marie, pour qu'un peu de votre âme resplendisse dans la nôtre. Ainsi que le soleil resplendit dans le souci, qui a tant d'affinité avec lui en similitude de ses rayons et feuilles de la dite fleur. De qui ai-je donc lu qu'elle avait appris toute petite de sa maman à faire des lettres avec du myosotis? Tous ceux qui aiment écrivent des lettres avec des pensées. Une pensée, c'est le signe dans le pli du papier. C'est le signe que le cœur n'oublie pas. Dans notre bouquet de fleurs à notre mère du ciel, aujourd'hui nous voulons nouer pensées et soucis. Des pensées de la servir à jamais, nous dit saint François de Sales. En effet, elle qui a si bien servi le plan de Dieu, le plan divin en acceptant cette maternité divine, est devenue la mère de Jésus, la mère de Dieu, la mère de tous les chrétiens, la mère de chacun d'entre nous. Elle est mère et reine à la fois, car elle porte en son sein le roi des rois. Quand les mages viendront à la crèche de Bethléem ou à l'humble maison établie par Marie et Joseph, au lendemain de la naissance du Sauveur, ils ouvriront leurs cassettes et offriront des présents selon l'usage d'Orient. Mais des présents symboliques, de l'or, pour reconnaître la royauté de cet enfant, si petit qu'il soit, sans trône, ni couronne, ni sceptre, il n'en est pas moins investi dès cette heure de la royauté sur le monde. Et c'est un devoir de faire acte d'obéissance à son pouvoir. Elle est reine aussi, celle qui vient de naître de l'union d'Anne et de Joachim. Oui, elle appartient à la famille royale, mais le Seigneur lui a donné en héritage, mieux qu'une tribu ou une principauté, son royaume, c'est celui de son Fils, toute la création de Dieu. Aucune princesse de sang, aucune reine d'élection ne sera jamais à la tête d'un aussi vaste empire. Salve Regina, nous vous saluons, ô reine du ciel et de la terre. Mais que ce soit de notre part des pensées à la servir à jamais, que tous les chrétiens s'engagent à servir toujours mieux, toujours plus, Marie. Marie a dans ses solennités beaucoup de serviteurs qui ne le sont peut-être plus à la fin de la cérémonie, au sortir de l'église, et pour lequel le proverbe n'est que vrai, passez la fête à Dieu le Saint. Alors que votre chère communauté de la chapelle de Saint-Jean-Baptiste, elle soit toujours plus servie, honorée, priée, qu'elle y soit servie comme reine, comme la royauté de son Fils. Sa royauté est spirituelle. Il n'existe que dans les âmes qui vivent de son esprit à son exemple, dans l'amour ou dans la grâce de Dieu. Autrement, elle est une reine détrônée, à laquelle on a substitué dans le temple de son cœur quelques passions érigées en déesse, comme jadis les révolutionnaires qui mirent la déesse raison sur les autels. Et voilà pourquoi dans notre gerbe de fleurs, nos lys de pureté vont mettre leur blanc calice, comme ils sont bien de mise en cette circonstance. Le lys est inséparable de la Vierge. L'ange de l'Annonciation le tient à la main sur les chefs-d'œuvre de la peinture. Et la Vierge au lys nous est connue. C'est son emblème biblique, Lilium Inter Spinas, un lys entre les épines. Et cela parce qu'elle est la Vierge. Mais c'est au début surtout qu'elle mérite cette appellation de lys parmi les épines. Ici, elle est unique, c'est la naissance de l'Immaculée. communion de son âme à son corps, elle a été pure, blanche, sans tache, tandis que les autres naissent avec le péché. Elle, elle est vraiment, comme il convient, la blanche aurore du salut. Rappelez-vous, et je me rappelle quant à moi, ces délicieuses fêtes du mois de Marie ou du mois du Rosaire, où nous récitons le chapelet devant le Très-Saint-Sacrement. C'est la fête de la Très-Sainte Vierge. Les enfants sont groupés souvent autour de sa statue, un lys à la main, et ils chantent, entendant cette fleur vers la radieuse apparition de lumière, « Gardez mon lys au sein de la vallée, qu'il croisse pur et sans tache à vos yeux, gardez mon lys aux Vierges Immaculées, gardez mon lys pour le jardin des cieux. » Si nous lui offrons, en cette journée toute mariale, des lys de pureté, c'est bien pour honorer sa naissance immaculée et sa maternité divine, mais aussi pour la prier de préserver notre innocence, de baptiser, de chrétien, de prêtre. Aujourd'hui, frères très chers, nous assistons au triomphe de l'impureté partout dans notre société. Et ce qui autrefois était scandale est chose commune et acceptée par tous ou presque. Il est remarquable que le premier miracle opéré par Marie ait été un miracle de pureté. Au son de sa voix, dans le mystère de la Visitation, Jean-Baptiste, le précurseur, est sanctifié dans le sein de sa mère. La reine des fleurs ne peut être absente de la gerbe de fleurs offerte ce matin à une reine qui porte le nom de Rosa Mystica, Rose Mystique. Au début, ce n'est encore que l'éclosion de cette rose mystique. Elle s'épanouira plus large au fur et à mesure de sa croissance, surtout quand le soleil de justice, ayant fait d'elle son ostensoir à l'incarnation, Dominus Tecum, la pénétrera plus intimement encore de ses rayons. Mais déjà, quel parfum monte de ses corolles qui s'entrouvent. Jamais encore Dieu n'a reçu autant d'amour, ni de cette qualité de la part d'une créature. Les cœurs des séraphins et des chérubins assemblés, cœurs célestes, des cantiques d'amour n'ont pas fait monter vers lui un chant qui les ravit, comme la voix intérieure de cette mère. Vox tua dulcis. C'est pour honorer cet amour que nous lui offrons des roses d'ardente charité. Mais c'est aussi pour lui dire le nôtre. N'est-ce pas là la signification de la gerbe de roses qu'on lui présente? Si fort que soit l'amour, il y a des circonstances où il semble croître encore. Et elles sont de ce nombre, celles qui solennisent comme nous ce matin les fêtes de ceux de celles que nous aimons. Notre amour y trouve comme un regain de sa ferveur. Et dans cet amour pour notre mère, c'est aussi la charité pour Dieu qui est incluse. Tout amour légitime et pur s'identifie avec la charité surnaturelle. Nous n'aimons qu'en Dieu et pour Dieu. Et saint François de Sales veut nous enseigner, il n'y a jamais d'excès dans l'amour quand on aime en Dieu. Alors nos roses lui disent que nous l'aimons et que nous aimons le bon Dieu qui l'a tant comblé, que nous voudrions l'aimer un peu comme elle l'a aimé sur la terre et comme elle l'aime aujourd'hui dans le ciel. Car nous savons bien, frères très chers, que tout se ramène à cette grande loi de l'amour de Dieu par-dessus toutes choses. Plenitudo legis dilexio. Mais l'imitation de Marie, le zèle de sa gloire, la sauvegarde de la pureté, l'accroissement de la charité, suppose à la base de la vie une vertu qu'a caché, le secret de toute vie spirituelle, le secret de Marie, le secret de nous tous, chers chrétiens, si nous voulons vivre plus unis à Dieu, l'humilité. Vertu cachée comme la violette, modeste, qu'on devine qu'à la senteur dont elle emplit le jardin ou la lisière du bois. Avec la virginité, il n'est pas de vertu qui fasse autant partie de l'idée de la très sainte Vierge Marie. Le parfum s'en dégage de tous les mystères de sa vie. Et je ne m'étonne pas que le plus beau livre qui ait été écrit sur la dévotion à la Sainte Vierge, le plus profond, le plus complet, débute par son cantique, ce cantique à son humilité. Marie a été cachée dans sa vie. C'est pourquoi elle est appelée par le Saint-Esprit et l'Église Alma Mater, mère cachée et secrète. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a pas eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul, Dieu pour l'exaucer dans les demandes qu'elle lui fit de la cacher. Appauvrir et humilier a pris plaisir à la cacher dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie, dans sa maternité, dans ses mystères, dans sa résurrection et son ascension à l'égard de presque toute l'humanité. Oui, quelle humanité, quelle humilité de vie. En dehors de notre Seigneur, qui du reste est homme-Dieu, aucun personnage aussi grand n'est apparu dans l'histoire du monde. Aucune destinée ne peut être comparée à la sienne. Et pourtant, elle nous cache. Aussi est-ce dans une couronne de violettes qu'il faut finir ce bouquet de fleurs et par la pratique de l'humilité chrétienne qu'il faut nous exercer à l'honorer. Comme il fera plaisir au ciel, à notre mère, de la part de ses enfants, ce bouquet mystique de soucis, de pensées, de lys, de roses et de violettes. Il y a toujours joie dans une famille lorsque l'on fête sa maman. Mais elle est ressentie plus vivement par cette mère quand les siens ont su deviner ce qui sera le plus cher à son cœur en pareille circonstance. Croyons bien que rien ne peut réjouir le cœur de Marie comme de nous voir cultiver les vertus, toutes les vertus dont ces fleurs sont les symboles, et que nous recommande ou nous montre en exemple le mystère de la vie de Marie, le mystère de sa maternité divine, fait d'humilité, de virginité, de charité. Et nous pourrons saluer en toute vérité ce mystère que nous contemplons ce matin comme une aurore, ainsi que le fait la liturgie, comme l'aurore de l'avènement du règne de Dieu dans nos âmes. Alors ne quittons pas cette chapelle, frère très cher, en prenant la résolution à l'occasion du mois du rosaire de reprendre notre chapelet, de le réciter, de méditer les mystères divins que la liturgie nous offre, d'être unis à Marie, à Jésus, et de prier pour l'Église, pour le pape, pour vos prêtres, en cette année du sacerdoce catholique. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.